de ces Jeux paralympiques par mail. On attend vos réactions et pour cela, nous sommes accompagnés aussi aujourd'hui de Marie d'Armagnac. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste indépendante, spécialiste de l'Italie, François Morinière, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Président des entretiens de Valpré, ancien directeur du journal L'Équipe. Et Joseph Touvenel, bonjour.
Bonjour à tous.
Ancien vice-président de la CFTC, fondateur du magazine Capital Social. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, c'est le débat du jour.
Et au terme des Jeux Olympiques, donc, qui ont occupé toutes leurs pensées, il y a un petit peu la peur du vide maintenant qui s'ouvre pour ces athlètes paralympiques, comme pour les athlètes d'ailleurs des Jeux Olympiques. Faut-il d'ailleurs les comparer? Comment les comparer? Vous savez qu'on en a parlé comme des héros et certains décrient la chose et veulent simplement passer pour des athlètes comme tout le monde. Et c'est peut-être cette égalité-là qu'ils ont pu obtenir au fil de cet événement qui a été beaucoup suivi par les Français et des audiences tout à fait conséquentes pour ces Jeux paralympiques. François Morinière, Joseph Touvenel et Marie d'Armagnac vont essayer d'en faire le bilan. Et puis, bien sûr, ça nous amène à la question de savoir si le handicap aujourd'hui va vivre après cette parenthèse enchantée, ainsi que l'expression a été souvent utilisée. Au-delà de cela, est-ce que nous entrons peut-être dans une nouvelle ère dans le regard que l'on peut porter sur le handicap? François Morinière, vous qui connaissez bien le milieu du sport.
Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que l'exposition du sport paralympique a été extraordinaire. Jamais aucun Jeux Olympiques par le passé n'avait connu une telle exposition, un tel engouement public. Donc on a évidemment franchi un cap avec les épreuves quasiment toutes en direct, une très belle couverture dans les médias, des stades quasiment tous pleins, même si bien sûr les prix des places étaient différents, mais c'était très bien. Donc un événement qui restera marquant pour toujours, je pense, et qui effectivement place le handicap à un niveau différent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où on rentre dans la compétition, on finit par mettre le handicap en deuxième ou troisième position. Et ce qu'on regarde, c'est l'exploit sportif. Et on est passionné par ça. Et c'est, je crois, ce que voulaient les organisateurs et ce que veulent les sportifs paralympiques, c'est se faire regarder comme des athlètes de très haut niveau. Et ils sont des athlètes de très haut niveau. Et en ce sens-là, c'est gagné. Après, l'héritage, voilà, c'est plus compliqué. On sait que, assez logiquement, le soufflet retombe un peu. Il faut aussi penser au handicap qui n'est pas représenté aux Jeux Olympiques, et je pense qu'il y a aussi notamment
la surdité, par exemple.
La surdité, le handicap mental, hein, voilà, la trisomie. Il y a beaucoup d'autres formes de handicap qui ne sont pas présentées, et toutes ces formes de handicap doivent être prises en compte dans une politique nouvelle à l'issue de ces JO.
Et comment expliquez-vous déjà la médiatisation qui a eu lieu?
C'est d'abord l'effort de France Télévisions, parce que donc, France Télévisions s'est engagée à retransmettre tout en direct. C'est un effort éditorial considérable, une nécessité de comprendre les épreuves qui sont assez complexes, comme vous le savez, avec beaucoup de catégories. Donc France Télé a pris sa part, je dirais, de la mission de manière tout à fait positive. Et puis après, on a eu beaucoup, effectivement, de portraits, de détails qui ont été donnés sur la préparation de ces athlètes. Et puis voilà, et puis des histoires humaines qui sont incroyables.
Finalement, il y a peut-être plus de choses à raconter que pour les JO classiques.
Il y a des destins. Alors, les destins de sportifs de haut niveau valides, ils sont extraordinaires. Mais c'est vrai que là... passer par enjamber le handicap, si je peux dire, le contourner, le gérer, avec des systèmes de préparation, c'est ce que disait Tony Estanguet, qui sont beaucoup plus souvent légers que pour les athlètes valides, hein, ils ont beaucoup moins de moyens, donc ça veut dire qu'en plus de ça, pour se préparer, c'est encore plus compliqué que pour les valides, donc ça fait beaucoup d'obstacles à surmonter et ça les rend encore plus admirables.
Marie d'Armagnac, Joseph Touvenel, comment avez-vous vécu ces jeux?
Effectivement, alors moi je trouve qu'entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, même si les uns et les autres sont factuellement des athlètes de haut niveau, il y a quand même un supplément d'émotion à regarder les épreuves des Jeux Paralympiques parce que on voit dans l'homme cette capacité à se surmonter, à se dépasser, à se relever et à vraiment un effort de la volonté, je pense, de l'entourage parce qu'effectivement. Les conditions, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc, il y a beaucoup d'obstacles matériels, physiques et matériels à surmonter. Et j'avoue que c'est extrêmement impressionnant. Moi qui suis une béotienne totale, pas à la différence de mon voisin, j'avoue que j'ai été très impressionnée des épreuves de natation. Enfin, c'est impressionnant. Le tir sportif, enfin, c'est incroyable, c'est absolument incroyable.
Le cécifoot aussi a beaucoup fait parler.
Mais c'est ça. J'ai vu sur. Un réseau social, la réaction d'Anne-Dauphine Julien, qui dit ce ne sont pas, en voyant le tennis en fauteuil sur terre battue, elle montrait une photo avec toutes les traces des roues sur la terre battue, et elle disait ce ne sont pas deux petits pas sur le sable mouillé, mais elle montrait ces traces-là, Et elle disait que c'était extrêmement... c'est très beau, mais c'est très encourageant, en fait. Après, qu'est-ce qui va en rester? Il y a eu aussi quand même quelques articles pendant les Jeux paralympiques qui disaient il y a toute une fête, il y a une mise en valeur effectivement médiatique, il y a une exposition médiatique qui était très, très, très digne, honnêtement, à la hauteur de l'enjeu. Mais aujourd'hui, concrètement, à Paris, qui peut prendre le métro avec un fauteuil roulant? Qui peut... Je pense que prolonger cette réflexion, ce serait créer un ministère du handicap avec des moyens suffisamment conséquents pour s'investir, notamment, bien sûr, dans le handisport, mais aussi dans les vies quotidiennes, en fait. Parce que, très concrètement, pour prendre un exemple, combien d'enfants handicapés scolarisés n'ont pas d'AVS en cette rentrée scolaire? Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Si on pouvait en tirer une réflexion un peu général, avec un regard un peu moins dur et moins arrogant de la société et des politiques sur le handicap, ce serait vraiment intéressant.
Joseph Souvenel.
On a vu beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, on a vu de l'émotion, on a vu quelques larmes aussi, parce que tout le monde ne peut pas être premier, et c'est bien légitime. Donc voilà, et ça met en avant effectivement des personnes qu'on ignore souvent, qu'on ne veut pas voir, que la société met plutôt à l'écart, en tout cas notre société. Il suffit de voir la place des trisomiques dans la société quand on va dans des pays, par exemple comme l'Irlande ou l'Écosse, on les voit qui ont des activités dans les commerces, dans les stations-service, etc. Chez nous, on ne les voit quasiment pas travailler, sauf exception comme les cafés joyeux. Mais j'ai quand même deux regrets, moi. Le premier regret, c'est cette incapacité à mêler des épreuves valides et handicap. Alors on me dit, c'est impossible, c'est très compliqué. Non. C'est parce que, sans doute, il y a deux comités olympiques internationaux. Ça fait deux patrons, plus des nationaux, plus des machins, un peu des trucs. Je ne vois pas la difficulté à faire nager dans le même bassin à quelques minutes d'intervalle des valides et des handicapés. Ça sera un effort à faire parce qu'il y a quand même un peu plus de public pour les valides et ça permettrait d'avoir aussi le même public. Voilà, ça veut dire que les jeux, on les mêle, donc ils durent aussi longtemps, puisque là, il y a deux jeux, on en fait un. Mais voilà, ça serait la reconnaissance, justement, de mêler l'un et l'autre. C'est mon premier regret. Le deuxième regret, c'est que le comité international olympique, les deux d'ailleurs, font pas beaucoup d'efforts financiers, ils gagnent beaucoup d'argent. Et il y a un côté un peu indécent quand on voit certains athlètes qui tirent le diable par la queue et quand on voit les autorités internationales des Jeux Olympiques qui se gavent de façon totalement indécente. Et puis, voilà, moi j'ai vu les petits.
Dans quelle mesure, Joseph ?
Par les bénéfices qu'ils font, par les avantages qu'ils ont dans les grands hôtels, les voitures avec chauffeur, etc. Tout ça ne me paraît pas très nécessaire quand on nous dit qu'on fait des jeux inclusifs, respectueux de la planète. D'ailleurs, respectueux de la planète. Les petits bonnets sympas qu'on a vus, qui sont vendus en poupées, qu'on met sur la tête, ils sont fabriqués où ? Ils sont fabriqués en Chine, c'est marqué dessus « Made in China ». Ah oui, c'est des jeux inclusifs ? L'inclusion des petits-enfants qui bossent pour pas grand-chose ? Parce qu'en Chine, quand on fabrique, on traite bien les gens. Socialement, c'est impeccable. Alors, pour le respect de la planète, tout le monde sait que les usines chinoises sont absolument respectueuses de l'environnement. Là aussi, il y a quelques efforts à faire. Cela dit, bravo aux athlètes, qu'ils soient valides ou qu'ils soient handicapés. Un plus grand bravo pour les handicapés, parce que le handicap, c'est toujours une difficulté supplémentaire, voire une souffrance supplémentaire.
François Morinière, sur ces trois points abordés par Joseph Touvenel, il y a des choses à retenir qui pourraient faire progresser les Jeux ?
Alors, les épreuves communes, c'est un joli rêve. C'est compliqué parce qu'il faut du coup des infrastructures. Il faut pouvoir loger 15 000 athlètes ou 13 000 athlètes en même temps. Donc, il faut des infrastructures plus grandes. Ce n'est pas les mêmes commissaires, ce n'est pas les mêmes arbitres. Donc, il faut que tout le monde puisse vivre en même temps. Ce n'est pas si simple. Ça pourrait se faire sur des épreuves assez simples, je pense, ou à la marge en fin des JO, mais ça obligerait à allonger la période non-stop de JO. Ce qui est compliqué aussi, parce que c'est déjà 17 jours sans arrêt. Et donc là, les équipes sont contentes d'avoir une semaine ou deux pour pouvoir souffler, réorganiser les choses. Donc c'est logistiquement parlant assez compliqué. Donc,
Mais est-ce qu'on y avait pensé ?
Oui, bien sûr, évidemment. On a aussi pensé à avoir un classement unique des médailles, sauf qu'on mélange aussi beaucoup de choses, donc c'est difficile. Il y a beaucoup plus de médailles paralympiques que de médailles valides. Donc du coup, ça déséquilibrerait le classement de façon très, très forte. Donc voilà, il faut... Et puis c'est quand même... Pour mémoire, c'est quand même les Jeux valides qui financent les Jeux paralympiques. C'est-à-dire, c'est le CIO qui aide le comité paralympique pour financer. C'est les sponsors qui financent l'ensemble. C'est les infrastructures qui servent aux deux. Donc, il y a quand même, heureusement, une mutualisation des coûts et des recettes pour pouvoir faire les JO, parce que sinon, il n'y aurait aucun Jeu paralympique.
Mais la médiatisation n'attire pas les annonceurs sur les Jeux paralympiques ?
Mais ils attirent les annonceurs sur les deux Jeux olympiques. Mais
on ne pourrait pas leur vendre de l'espace uniquement sur les paralympiques.
Je pense qu'on aurait plus de difficultés.
Malgré le changement d'image ?
Disons que les audiences ne sont pas les mêmes. Enfin, ça avance, si vous voulez, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un écart encore considérable en termes d'exposition, de relations au public. C'est pas la même chose, si vous voulez. D'ailleurs, c'est normal, c'est des jeux qui sont beaucoup plus récents. Donc la visibilité, enfin, l'engouement n'est pas le même encore, même si ça avance, et l'économie n'est pas la même. Donc heureusement qu'il y a les valides qui financent les invalides. Hein.
Sur le déséquilibre souligné par Joseph, sur les salaires ou les émoluments, les prestations.
Alors, je connais pas,
de la structure, au détriment des athlètes, parce que c'était ça votre point de vue, Joseph, c'est de dire qu'il y a des athlètes qui se débrouillent par eux-mêmes.
Et du bien commun, parce que n'oublions pas qu'une partie des jeux, et c'est légitime, sont payés par nos impôts.
Et je ne sais pas, alors du coup, je ne sais pas les primes. Comment les primes sont réparties, si c'est les mêmes. Je ne peux pas vous dire si les montants des primes sont les mêmes par rapport aux deux Olympiades. Voilà, après, c'est sûr que. Mais après, le niveau de rémunération des athlètes olympiques est relativement faible, si vous voulez. Hein. Faut pas croire que.
Je ne parlais pas du niveau de rémunération des athlètes. Hein. Je parlais de tous ceux qui, justement, ne sont pas les athlètes et qui vivent joyeusement du système. Notamment sur le dos d'un certain nombre de bénévoles. On l'a vu sur ces Jeux Olympiques, il n'y a pas eu que des bénévoles. Mais on a vu des bénévoles qui étaient exploités de façon quasi éhontée pour certains d'entre eux.
Oh, ils l'ont voulu. Enfin, je veux dire, je pense que la grande majorité des bénévoles étaient contents d'être là. Je pense qu'ils ont passé un moment formidable. Je ne crois pas qu'ils attendaient une rémunération. Ce n'était pas le principe. De toute façon, on n'avait pas les moyens de le faire parce que 45 000 personnes à rémunérer, c'était impossible. Ça a toujours été le modèle économique. Voilà. Après, ce qui est de la justice sociale, probablement comme partout. Donc,
il y a des bénévoles qui ont été congédiés un peu tôt, qui avaient pris des vacances, et on leur a dit finalement on n'a plus besoin de vous, bon, etc. Il y a eu des choses comme ça.
Bon, okay. Sur 45 000 personnes, il y a forcément eu des petits couacs. Enfin, globalement, moi, j'ai fait quand même beaucoup d'épreuves, j'ai été avant à l'organisation et au comité d'audit. J'ai l'impression quand même qu'on a plutôt refusé des bénévoles et qu'il y avait quand même un enthousiasme qui était fort. Après, voilà.
Ce qui me choque, ce n'est pas qu'il y ait des bénévoles, c'est tout à fait bien d'ailleurs. Il y a des gens qui travaillent, j'en connais qui travaillent à cette heure-ci pour démonter et qui ont travaillé toute la nuit, qui sont salariés, des bénévoles, c'est très bien. Ce qui me choque, c'est la différence qu'il y a quand on voit le haut de la pyramide du CIO, combien ces gens gagnent et comment ils vivent avec des avantages, d'ailleurs toute l'année, hein, pas qu'au moment des Jeux Olympiques, et je trouve ça très choquant.
Vous voyez, ça fait débat ce matin. N'hésitez pas à réagir direct@rcf.fr. Si vous aussi, comme Joseph Toudenel, vous êtes choqué par les avantages des athlètes.
Pas des athlètes.
J'allais dire effectivement des membres de l'organisation.
Des fonctionnaires du CIO.
Direct@rcf.fr.
Il y a un point encore quand même sur cette parenthèse enchantée. Justement, je voudrais savoir comment on peut s'extraire peut-être de cette idée de parenthèse qui est un petit peu dangereuse. Et certains athlètes ont pu souligner le fait que, ou des personnes spécialistes de cette question, on peut souligner le fait qu'il fallait aller au-delà de cette parenthèse enchantée. François Morinière, Marie d'Armagnac, Joseph Touvenel. François, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant?
Le problème, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire accentuer la politique en faveur de l'intégration du handicap. Et ça, c'est quoi? C'est l'État, c'est les collectivités locales. Et la question, c'est une question de priorité et de moyens. Donc, est-ce que l'État est prêt à faire en sorte que...
C'est une question de choix de politique.
Voilà, c'est une question de choix de politique. Est-ce qu'on est prêt à aménager les stations de métro pour que tout le monde puisse y avoir accès? Ça coûte très cher. Voilà, c'est un investissement. On a mis 1,4 milliard sur la Seine. On construit des nouvelles lignes qui sont nécessaires, hein, Paris Express, etc. Est-ce qu'on est prêt à investir pour refondre des stations de métro à Paris pour... Voilà. Donc après, c'est une question de moyens et de choix. Et en ce moment, c'est sûr que l'équation, on va y venir plus tard quand on parlera de Michel Barnier. L'équation n'est pas simple. Donc on a une liste de choses à faire et on n'en a pas les moyens. Donc est-ce que celle-là passe au-dessus du reste parce que on s'est rendu compte de l'impact que ça avait pour la société, pour la vie en commun, pour le bien commun? Est-ce qu'on considère que c'est plus important que d'autres choses? Est-ce que la Seine propre, c'est plus important que... Voilà. J'ai rien contre la Seine propre, mais après, c'est une question d'arbitrage.
Surtout qu'elle ne l'est pas propre. Donc...
ce matin, c'est sûr que non, parce que vu ce qu'il a plu cette nuit, heureusement que les épreuves sont finies, parce que ce matin, je ne vous conseille pas de vous baigner.
Mais après, François Marinière... Absolument raison sur les choix des moyens, ce sont les choix politiques, on fait des choix. Mais il n'y a pas que ça, il y a un problème d'éducation, il y a un problème... Enfin, comment se fait-il qu'une famille, un père, une mère qui arrive et on détecte que leur enfant a un risque de trisomie, on leur dit « vous le faites passer ».
Vous le faites passer?
Oui, vous abortez. Ça devient quasi systématique. Peut-être qu'il faut se poser la question de quel regard portons-nous sur le handicap. Est-ce qu'un enfant trisomique qui va devenir un jeune adulte trisomique, adulte trisomique, c'est sale pour la société? C'est dérangeant pour la société. C'est peut-être ça qu'il faut changer aussi.
C'est tout le paradoxe.
Il faut commencer par
ça. Tout le paradoxe qu'on vit. Hier, on a magnifié les athlètes qui gagnent Et par contre, on veut éliminer la trisomie. Voilà. Donc, et qui est pourtant aussi un handicap tout à fait réel et qui ne mérite pas cette forme d'eugénisme. Donc, voilà les débats moraux qui se posent aujourd'hui dans la société.
Et le fait qu'on ait vu, quand je dis voir, c'est-à-dire mettre à l'image, et on sait quel est le poids de l'image aujourd'hui, il y a quand même un changement de mentalité qu'on peut espérer de cette médiatisation. Ça c'est peut-être quelque chose qui va évoluer, peut-être.
Alors, dans la société, on peut l'espérer sur le plan politique.
Ou l'intégration dans l'entreprise même, hein, c'est compliqué pour les personnes handicapées.
Oui, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Alors, moi, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi les trisomiques étaient écartés des Jeux paralympiques. C'est dommage parce que déjà, ceux qui restent, ce sont des survivants. Il y a 5% seulement qui sont détectés, qui ne sont pas avortés. Donc ça aurait été vraiment une belle mise en valeur de ce qu'ils peuvent apporter quand même. Ouais. Non, mais voilà, c'est une question que je me suis posée.
Les déficiences mentales, effectivement, sont pas présentes. Parce que c'est assez compliqué d'organiser les choses dans un temps donné, avec une contrainte horaire de chronométrage, etc. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas facile à mettre en œuvre. Vous voyez ce que je veux dire?
Je suis d'accord, mais là aussi, on reparle des 1 milliard cartes pour la Seine, il y a une question d'arbitrage quand même.
Oui, bien sûr.
Une question de volonté politique.
Et puis je crois aussi que...
Et avec les finances derrière.
Voilà, on veut pas non plus exposer des handicaps qui seraient difficiles à vivre aussi pour l'handicapé lui-même. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
parce
ça.
Parce que face à la foule, face aux médias, face à la pression, il faut pouvoir supporter ça sur le plan mental. Et parfois, c'est difficile pour un handicap mental de le supporter. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est difficile à organiser.
Oui.
Je crois. Enfin, je ne vais pas défendre le comité international olympique, mais je veux dire, c'est difficile pratiquement à faire. Voilà. Ou alors, il faut le faire dans un cadre différent.
Oui.
Vous voyez, dans le cadre propre de ces JO, avec autant d'épreuves chronométrées, tant de choses à faire. Voilà, la déficience mentale n'est pas évidente à intégrer.